during the last meeting.
Okay, thank you.
I think I have three questions. Première question, Mrs. Marie-Jo Pires from the Users Committee inquired about the actions at the MUHC board with respect to improving physical access to the neuro for patients with mobility issues. And Pierre-Marc Legris was requested to examine the feasibility of opening a Royal Victoria Hospital corridor. That wasn't the question. So, Monsieur Pierre-Marc Legris m'écrit, j'ai rencontré Madame Pires et Madame Savoie le 3 juillet au Neuro. Nous avons fait le tour du bâtiment et des accès. Plusieurs actions sont en cours afin d'améliorer l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Quelques actions relèvent de la ville de Montréal et nous faisons le lien avec eux. En pièce jointe, vous trouverez notre plan d'action interne, donc qui a été déposé au comité de direction. So that was the first question about the access to the MNH, MNI. La deuxième question qui avait été posée, c'est Monsieur Thomas McCutcheon du MGH Patients Committee. I inquired about the status of the air conditioning and the patient's rooms at the Montreal General Hospital. Monsieur Pierre-Marc Legris, j'ai parlé à Monsieur McCutcheon depuis la séance du 14 juin, car il demandait des suivis. En date d'aujourd'hui, et là il m'écrivait à la mi-juillet, 25 climatisateurs ont été installés et il est planifié de compléter les 70 unités prévues d'ici le 26 juillet, tel qui avait été annoncé initialement. C'était la deuxième question. La troisième question, c'était Mme Sandra Etienne de la PTS qui a posé la question suivante. Pour le laboratoire, est-ce que le CUSUM a un plan d'urgence, code vert, qui inclut la protection des spécimens du personnel et de la population? Je pense que la question de Mme Etienne était relative à l'incendie qu'il y avait eu à l'Institut de recherche et à l'évacuation, entre autres, du laboratoire. Donc, voici les informations obtenues de Pierre-Marc Legris, de M. Enzo Caprio et de l'équipe. Alors, les laboratoires cliniques suivent le plan des mesures d'urgence globales du CUSM pour incendie, code rouge, et l'évacuation, code vert, qui sont applicables sur l'ensemble de nos sites. Lors d'une situation d'urgence majeure, comme un incendie ou une évacuation, le service de sécurité incendie de Montréal se rend sur place et le CUSUM s'assure de collaborer avec le service d'incendie et de fournir tout le support nécessaire et les informations requises. Afin de protéger les occupants et de minimiser les dommages au bâtiment, les systèmes du bâtiment sont également programmés pour se comporter différemment lors de telles situations. Lors de détection de fumée, les systèmes de ventilation sont programmés de manière à arrêter afin de limiter la propagation de la fumée dans les locaux. Au niveau de la protection du personnel, les laboratoires du site Glen ont des procédures départementales pour un code vert. Glen Monitor Task Sheet, Warden Task Sheet. Elles sont développées dans le but de préserver la sécurité des occupants et de diminuer le risque sur la santé du personnel. Les personnes en charge de l'évacuation de chaque étage sont les gestionnaires du labo ou le Fire Monitor Warden. Une formation de code rouge et de code vert est prévue et est maintenue et donnée périodiquement. Les laboratoires ont aussi une politique pour la fermeture de la ventilation et des processus à suivre. Les laboratoires de confinement de niveau 2 et les hôtes chimiques conservent un minimum de ventilation pour extraire l'air afin de préserver la sécurité des occupants. Pour les zones de confinement du niveau 3, des protocoles spécifiques sont en place afin que le personnel sécurise les lieux et évacue dans tous les cas où la ventilation sera arrêtée. Ces protocoles font partie des critères que Santé Canada évalue afin de certifier ces installations. Au niveau de la protection des spécimens, le code vert ne prévoit pas de temps pour leur protection. Mais durant le code rouge, le personnel de laboratoire va se préparer pour une évacuation et protégera les spécimens labiles. Si le laboratoire est en feu ou s'il y a beaucoup de fumée, la sécurité du personnel prime et la protection des spécimens va être faite seulement si la personne en charge d'évacuation juge qu'il n'y a pas de danger pour le personnel. Les protocoles pour chaque labo sont en écriture actuellement ou vont l'être bientôt et tout le personnel sera entraîné par simulation. Finalement, au niveau de la protection de la population, la banque de sang prépare des contenants avec des produits de sang, par exemple O positif, etc., et quand ces services ne sont pas disponibles. Les laboratoires de micro ont des protocoles pour protéger leur inventaire de micro-organismes et nos clients ont accès aux services de laboratoire associés des autres centres au cas où nos laboratoires de Glen ne peuvent plus offrir de services. Cette réponse-là, étant donné qu'elle est très technique et complexe, on pourra vous la transmettre par équipe, Mme Etienne. Voilà, M. le Président.
I think then we are brought to our question period.
Yeah, we have I think at least five questions or four questions, and one I think some people will show up from the CSN to bring forward a petition. One of the questions that I have here, I answered already concerning the making the neuro more accessible. I don't know if the person still wants more details, which I don't have at the present moment, but still, we could take a question. So the first question would be from Equipe APTS du CUSUM. Alors, on va vous permettre de vous avancer au micro.
Bonjour.
Bonjour.
On est l'équipe APTS.
Parfait.
Donc, je me présente, Sandra, Diane et Nathalie. Pour commencer, on voudrait remercier le conseil d'administration pour le suivi concernant le code vert et le code rouge. C'est très apprécié, donc on vous en remercie. Ensuite, par rapport à la première question, on voulait amener le fait... La première question, c'est concernant OptiLab. On voudrait savoir, c'est quoi la vision à court terme et à long terme pour OptiLab, GRAP, CUSM, Montréal, parce que présentement, on est dans un contexte, si on regarde depuis décembre 2018, il y a eu 43 nouvelles embauches, ce qui est bien, mais 49 départs définitifs. Puis une bonne proportion de ces gens-là avaient moins de 5 ans de service au CUSM, des retraités qui s'en vont à des retraites anticipées, un nombre croissant de techniciens de labos technologistes qui démissionnent de leur poste pour se mettre sur la liste de rappel avec des disponibilités minimum. C'est beau aussi, on dit qu'on avait embauché 21 personnes externes, mais ils sont tous partis à la mi-août, à la fin août. On voit beaucoup, restructuration, le fait que les technologistes et les techniciens font du temps supplémentaire obligatoire parce que les vacances n'ont pas été remplacées, puis on sait, il y a une autre période qui s'en vient. Puis là, aussi parce qu'il y a des endroits qui sont à la veille, qui ont été à la veille ou qui sont à la veille du bruit de service, malgré que le problème est connu, notamment, exemple, le laboratoire de la Chine, où ce que les gens sont à bout de souffle, ils n'en peuvent plus. Donc, on comprend que OptiLab, c'est un projet que le gouvernement a décidé qu'il serait appliqué à la grandeur du Québec. Cependant, on voudrait savoir quelle est la vision du CUSM à court et à long terme pour OptiLab, GRAP, CUSM.
OK, merci de la question. Moi, je vais me concentrer sur la vision globale. C'est mon rôle de PDG. Puis après ça, si par rapport aux éléments plus précis que vous apportez en termes de gestion des ressources humaines puis de pénurie, peut-être que je vais laisser la parole aux gens de ressources humaines ou aux gens d'OptiLab qui sont dans la salle. Alors, je veux juste rappeler qu'OptiLab, c'est né d'une volonté ministérielle ferme de rationaliser les laboratoires, de diminuer le nombre de points de service et de s'assurer qu'on allait chercher toutes les économies potentielles en assurant la qualité du service. Tout ça dans un contexte, bien entendu, de pénurie de personnel, de techniciens de laboratoire. C'était une des choses qui ont motivé l'ancienne équipe, l'ancien gouvernement d'aller de l'avant avec OptiLab. En même temps, OptiLab, c'est vraiment un changement qui n'a pas été plébiscité. C'est vraiment un changement qui a été imposé à l'ensemble du Québec. Ça fera 3 ans au 1er avril, si je me souviens bien, ça fera 3 ans au 1er avril. Et c'est très variable au Québec, l'intégration qu'il y a eu dans les différentes grappes OptiLab. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en général, ma perception, parce qu'il y a un an et demi, j'étais dans une autre grappe OptiLab où la dynamique est complètement différente, celle de l'Université de Montréal, je vous dirais que je pense qu'en termes d'intégration, de collaboration entre les différents laboratoires, de rationalisation des analyses, de transfert d'analyses, on est beaucoup plus loin. On est plus en avant que d'autres grappes. Par contre, on a des problématiques qui sont liées avec certains éléments de notre offre de service. Entre autres, je vais commencer par l'Abitibi. Vous savez que OptiLab, Abitibi, bien, c'est OptiLab CUSUM. Et ça veut dire que les employés qui travaillent dans le laboratoire à Ville-Marie ou à Amos ou encore à Rouyn-Noranda, ce sont nos employés. D'ailleurs, je me suis déplacé pour la fête des employés parce qu'on avait des employés qui étaient honorés. C'est nos employés. Donc, on doit s'en occuper. Mais vous comprendrez qu'il y a des défis de main-d'œuvre en Abitibi qui sont tout autres que les défis de main-d'œuvre qu'on a présentement à Montréal. Donc, ça occasionne des coûts. Par exemple, à Ville-Marie, je dois vous dire que souvent, on est en main-d'œuvre indépendante, puis en temps supplémentaire, pour assurer le service dans cette petite localité-là du Témiscamingue. C'est pas évident de recruter du personnel compétent de laboratoire. À Montréal, on a un autre problème, puis c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait discuter ensemble, puis avec la PTS, puis nos représentants patronaux. Vous savez que les employés de laboratoire peuvent faire des périodes d'essai sur des postes. Ils peuvent appliquer sur des postes qui s'ouvrent dans une autre installation, que ce soit au Jewish, que ce soit au Lakeshore, que ce soit à Sainte-Maryse ou à la Chine, puis aller faire une période d'essai. Et ça, ça nous a déstabilisé beaucoup parce que les gens ont tendance à appliquer sur des postes pour aller voir comment ça va. Certains restent, d'autres viennent. Et c'est pas limité dans une période d'une année. Donc, c'est quelque chose dont on aimerait discuter avec vous pour pouvoir assurer une certaine permanence là, du personnel. Mais ça se fera avec vous en termes de discussion. Donc, la vision court terme, un OptiLab, c'est un, améliorer le service le plus possible, garder la qualité du service, assurer qu'on ait assez de personnel pour pouvoir rendre le service. Puis, troisièmement, aussi, on a des cibles financières avec OptiLab qui sont difficiles à atteindre. Dans le déficit cette année, OptiLab sera, c'était 4 millions l'année passée le déficit. Cette année, c'est plus vers 5 ou 6 millions, on verra à la fin de l'année. Ce que je vous dirais, ce n'est pas la seule région, c'est comme ça. La plupart des régions n'atteignent pas leur cible des déficiences qui avaient été visées par l'exercice. À long terme, ça ne revient pas à l'institution ici, mais ça revient au gouvernement de prendre des décisions. Ce que je peux vous dire, c'est que, puis je pense que je ne trahis pas un secret en disant ça, il y a beaucoup de discussions qui commencent à Québec présentement, entre Québec et nos équipes, sur c'est quoi l'avenir, le petit lab, est-ce que vous pensez que les économies, vous pourrez les atteindre, est-ce que c'est un système qui est viable. Donc, il y a des discussions, il y a des questions qui sont posées dans différents forums, entre autres entre les PDG. Alors, je vais laisser cela en termes de vision globale. Nous, bien entendu, on va se conformer aux directives qu'on va recevoir du gouvernement et du ministère à ce sujet-là. On va essayer de gérer le petit lab le mieux possible, que nos employés aient la meilleure qualité de vie au travail, mais qu'on va essayer de concilier avec la qualité des services offerts à la population. Puis, on va continuer d'adresser les défis avec votre collaboration. Je ne sais pas si, du côté des RH chez nous, est-ce qu'il y a des gens par rapport aux aspects plus précis que vous voulez aborder aujourd'hui ou si vous voulez garder ça, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été mentionnés, le nombre d'embauches de départ. Je ne suis pas certain qu'on veut rentrer là-dedans, mais par contre, c'est certain que ça doit être discuté dans les rencontres conjointes qu'on a avec la PTS. Madame Dubé?
Oui, tout à fait. Il y a un suivi régulier qui est fait avec le syndicat sur le sujet de l'OptiLab, auquel participe régulièrement Zoho, Cathy. Alors, c'est régulier. On parle de surpoids qui ont été stabilisés pendant l'été. On parle d'un recrutement extrêmement intensif. On parle d'un taux de roulement aussi qui est assez bas si on compare à d'autres services de l'organisation. Mais ça n'empêche pas la préoccupation qu'on peut avoir actuellement pour OptiLab. Alors, c'est un travail qui est en continu avec des rencontres régulières et on commence un exercice de rehaussement des postes. Il y a une première rencontre qui est fixée d'ici la fin septembre pour s'assurer qu'on offre les postes les plus concurrentiels et intéressants possibles et stabiliser les différents services.
Merci. Vous aviez une deuxième question, je pense, Mme Étienne, hein? Ou peut-être pas vous, peut-être un autre membre de votre équipe, ou je ne sais pas. C'est écrit en PTS.
Oui, ben c'est ça.
Équipe on est en PTS, je ne sais pas c'est qui.
Ils sont là. C'est Diane, c'est Nathalie, c'est moi, c'est Marie-André, c'est Marilyn. OK, et c'est José. Donc, la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que le CESM a prévu ou a un plan d'attraction et de rétention pour l'hôpital de la Chine? Écoutez, à chaque fois qu'on y va à l'hôpital de la Chine, les gens sont un peu dans l'incompréhension parce qu'on le sait, on le voit, puis c'est tout à fait légitime. Le CESM a le souci du budget. OK? Mais eux autres, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, OK, pour la liste de rappel, on les amène à former une liste de rappel dans les spécialités. Une fois ces gens-là formés, ils remplacent à peu près, quoi, en moyenne, entre 2 à 6 semaines. Et par la suite, bien, ils tombent, qu'ils n'ont pas vraiment d'air. Fait que ce qui arrive, c'est que ces gens-là commencent à regarder ailleurs ou, comment dire, ce qu'ils nous disent, c'est que je vous rapporte ce que les membres nous disent, c'est que c'est comme si on rendait plus ou moins attractif l'hôpital de la Chine. Les gens sont inquiets, notamment en imagerie médicale et au laboratoire, mais ce ne sont pas que, c'est général. On va souvent faire des visites là-bas. Les gens nous pensent, c'est pas la première fois que cette question-là est amenée au conseil et les gens vous suivent via Internet. Donc, c'est ça, ils veulent savoir, là, parce qu'ils sont un peu inquiets, puis ça leur amène, veut, veut pas, une surcharge, parce que quand ils ont besoin de la liste de rappel, bien, il n'y en a plus. Donc, merci.
OK. Bien, je vais, encore une fois, je vais prendre le premier niveau, le niveau qui me concerne, puis je vous avoue que je ne suis pas au courant des détails de la liste de rappel de la catégorie 4 à la Chine. Je comprends que votre question s'adresse à la catégorie 4 plutôt qu'aux techniciens de laboratoire, là, hein? En général, la catégorie 4, c'est ça? OK, parfait.
Ça inclut les labos.
Oui, il y a des labos, puis il y a d'autres, tout le monde, qui, les autres professionnels essentiellement. Donc, écoutez… les gens de la Chine, ils font partie d'un ensemble qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle le CUSUM. Et ça leur donne des possibilités d'emploi, de progression professionnelle, puis de mobilité aussi énorme par rapport à la situation qui prévalait avant que la Chine soit fusionnée avec le CUSUM. Écoutez, honnêtement, quand je vais à la Chine, je parle au personnel. Souvent, j'entends que, ben moi, je suis rentré à la Chine, mais… mon rêve, ce serait d'aller travailler au Glen ou d'aller travailler au General parce que j'aime la traumatologie ou j'aime tel genre de clientèle. Donc, on a des défis particuliers à la Chine. C'est un hôpital qui est communautaire. C'est un hôpital où on doit fournir des services qui sont très importants pour la population de ce secteur-là de la ville de Montréal. Donc, on a besoin d'avoir des recettes un petit peu différentes pour la Chine parce que ça fait partie d'un grand ensemble. Puis, une fois qu'ils sont embauchés à la Chine, bien, à la Chine, vous le savez, ils ont une mobilité dans l'ensemble des installations du CUSUM. Ils peuvent appliquer sur tous les postes qui deviennent disponibles dans leur secteur. Donc, moi, c'est le défi que je connais pour la Chine par rapport aux professionnels de la catégorie 4, mais c'est aussi vrai pour les infirmières, c'est aussi vrai pour le personnel de services techniques et de personnel de soutien. Là, je ne connais pas les détails de la question que vous avez posée, je ne connais pas la réponse à votre question. Je ne sais pas si c'est très opérationnel, c'est une réunion du conseil d'administration, le niveau de préoccupation ici est de niveau stratégique. Je ne sais pas si du côté des RH, il y a des éléments de réponse que vous voulez mettre de l'avant aujourd'hui ou si vous préférez aborder ça dans les rencontres. Moi, je ne peux pas en dire plus, là. Oui, j'aimerais mieux que vous alliez au micro, Mme Dubé.
Alors, pour ce qui est de la question, vous avez effectivement mis la table. En fait, la grande question va toujours être, qu'est-ce qui va faire qu'on va rêver d'aller travailler à la Chine? Que ça devienne le rêve des gens qui sont là. Et lorsqu'on recrute pour le CUSUM, souvent on recrute du tertiaire, quaternaire. En fait, ça amène un différent type de recrutement, puis on n'a peut-être pas assez travaillé celui-là. Alors, effectivement, il y a une réflexion actuellement, puis un plan qui est élaboré sous… le porteur de dossier, c'est Chantal Bourdeau, que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui. Évidemment, les ressources humaines, nous sommes collaborateurs. Et il y a une préoccupation pour s'assurer que l'hôpital de la Chine soit attractif et aussi que les gens demeurent sur place. Alors, on essaie de faire une stratégie différente pour l'hôpital de la Chine qu'on ne fera pas ailleurs. Alors, effectivement, dans cette réflexion-là, je peux informer Chantal de la réflexion ou de l'implication probablement que souhaite avoir la PTS dans ce dossier. Je vais donc lui transmettre l'information.
J'ajouterais peut-être quelque chose que je n'ai pas mentionné encore, mais merci beaucoup, Mme Dubé. Vous savez, le projet de rénovation qui a été annoncé l'année passée, il va toujours de l'avant. Puis quand on regarde l'hôpital de la Chine, c'est quand même très, très vétuste. Alors, en termes de milieu de vie au travail, je pense que ça va être très intéressant d'avoir un hôpital neuf. Ça ne sera pas complètement neuf, mais quand même, ce que je veux vous dire, c'est une très bonne nouvelle, c'est que le projet qui avait été annoncé l'année passée par Dr Barrette, c'était un projet de 90 millions. Alors, les travaux de notre équipe technique avec les gens de la Société québécoise d'infrastructure et du ministère de la Santé en viennent à une solution qui va être plus coûteuse, mais qui va être plus avantageuse. On parle d'un projet de près de 200 millions à l'heure actuelle. On parle d'un nouvel édifice beaucoup plus grand que ce qui était prévu initialement, qui va entre autres inclure le bloc opératoire, ce qui n'était pas prévu dans le projet initial, puis qui va nous permettre d'éviter la mise à niveau parasismique de l'ancien édifice. C'est un petit peu compliqué, là, mais à partir du moment où on rénove un certain pourcentage d'un édifice, on doit mettre à niveau aux normes parasismiques pour les tremblements de terre. Si on rénove en bas de ce pourcentage-là, on n'est pas obligé de le faire. Donc, en déplaçant certains éléments dans le nouveau building va être plus grand, il va nous coûter plus cher, mais on n'aura pas besoin de mettre une somme importante sur le rehaussement sismique de la partie d'édifice à la Chine qui va rester utilisée. Donc, on devrait avoir des locaux pas mal plus fonctionnels puis qui vont être plus attractifs pour notre main-d'œuvre puis les gens qu'on veut recruter. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut recruter différemment pour la Chine sur des bases de proximité, sur des bases d'intérêt pour les services hospitaliers communautaires, plus de première ligne par rapport au recrutement tertiaire et quaternaire qu'on fait ici. Puis on va travailler ça avec vous. Merci. The next question would be from Mr. Hogg. Is he around? Oh, there you are. Welcome, sir.
Thank you. Let me just fix this. Let me not fix it. All right. So my name is Al Hogg, and I'm a member of the RVH Patients Committee. Last year, I posed a question to this body concerning wheelchairs at the Glen, and I want to commend the board for their efforts in responding to this issue. From the trenches, improvement has been noted, and things are moving in a positive direction on this dossier. As you may recall, I also work as a wayfinding volunteer at the Royal Vic twice a week, and one issue that has persisted over the last year is the difficulty that many visitors face in accessing the hospital's Wi-Fi, particularly if they have an iPhone. Now, there is a hack, in other words, a cumbersome workaround that we volunteers pass out to those in need by voice, but only if they ask. For those who don't ask and cannot connect, I can only assume their frustration leads to resignation and confirmation that the hospital has failed them. My question is threefold. As patients do not have a clear recourse to know how to resolve these connection issues, is passing out the hack by volunteers by word of mouth a solution the hospital or the board is content with? If not, then question two, what department can be called upon to formally identify and resolve these connection issues? And please don't mistake me as a shill for Apple, I'm not. Is this department committed to supporting Apple devices, which many patients, visitors, staff have? So number three, as most businesses that serve the public don't seem to have this problem, I feel that a simple solution must be at hand. Therefore, I would ask the board to please look into this. I'm positive there's an easy fix, and as such, I think an easy victory to be had. And by the way, the RVH Patients Committee would be happy to play a role in creating a simple troubleshooting tip page for the public Wi-Fi that would be accessible online and in print.
Okay, Monsieur. First thing, thank you very much for the positive comments on the wheelchairs.
You're welcome.
I walk around the hospital quite a lot, and I always take a look, and for the last few months, there have been wheelchairs.
It's getting better, yes.
Yeah, it's getting better. And I've also spoken to a couple of volunteers asking about wheelchairs. It's getting better. So we're happy with this. Okay, IT, you definitely have the wrong guy.
Okay.
my staff knows that. Okay, I can't answer these questions. I'm not even sure it's all right to pass the hack by word of mouth. So, Monsieur Bodo. Monsieur Angelo Bodo, could you, and maybe you don't have the answers, and maybe we have to write a letter to Monsieur Hogg with the answers, and I can read the letter at the next meeting, because they're quite technical. Maybe you have the answer, I don't know. Monsieur Bodo, you want to say a few words? Monsieur Bodo is our IT manager.
So this is news to me that the iPhones have been having issues, so we'd be glad to look into it.
Okay.
I know the Wi-Fi at the Glen is limited. There's reasons why it's limited for certain streaming and all that. But I mean, if there is any information that I can get, I'm glad to help out and try to find a solution for the Apple phone.
So you'll take Monsieur Hogg's coordinates, and we'll get an answer for the next meeting. That would be
Absolutely.
The November meeting. Okay.
Yes.
Thank you very much. Madame?
I support your
it doesn't work here at the General? Okay.
Yeah, Livingston.
In Livingston Hall? Okay, so let's take a look at the General as well for iPads, iPhones. Okay, next question would be Madame Rosazzi.
on ER times. So you will be reading Mrs. Rosati's question?
Madame Rosati m'a demandé de lire ses questions. So Lisa Rosati, she's the co-chair of the MUHC Patients and Users Committee. Question number one, she's got two questions. There have been recently alarming reports and disturbing articles in the media on the lengthy wait times for patients at the Glen ER, whose conditions sound like they would be triaged at a level 3 at least or higher. And as well, several complaints about this are regularly received at our patients committee office. Nearly every day code surge in the Glen ER is announced on the PA system. My concerns about this alarming issue here are as follows. What are the reasons for these egregious and repeated lengthy delays over 10 hours and beyond for acute and suffering patients who present themselves in emergency? How are patients regularly monitored by staff for changes in their health status during their long waits in the ER? What is the medical coverage, as well as the assistant staff coverage, such as X-ray technicians, PABs, et cetera, on evening and night shifts in the Glen ER? Are patients who are triaged at levels 4 or 5 told of their priority status and encouraged to go to a nearby clinic? Does the MUHC have entente with these clinics? What plans has or will the MUHC make in order to decongest the chronic overflow in the Glen ER and decrease the wait times for patients? And how can the patients committee help the MUHC to improve this ER situation for patients and staff?
Okay, so Mrs. Rosati is not the only one who's concerned about this. This summer, Madame Casgrain, our local commissioner to quality and complaints, issued a special report about the waiting times at the ER, at the Glen site. My office is at the Glen site, and almost every day, I hear on the announcement system, the phone system, code surge. So we're obviously very concerned. And there are many questions that were put forward, and I think that the best person to answer would be Dr. Eva Sidorovitz, our DPS, who knows about the situation, and I'll ask maybe if she could. Did you get a list of the questions, Dr. Sidorovitz?
Thank you.
Okay. Hi, Madame Rosati is in the back.
Yes, that's right. Hi. So I just want to echo what you said. I think that the concerns that you raise are concerns that we have every single day, Lisa, okay? So I don't have all the answers, but I can just tell you that it is a concern all the time. Now, if I just run through your questions, I think that just at a very high level, I would say that the first, I'm just not comfortable. I'm not sure, Lisa, because you're over there, I'm over here. It's a little, you know what? I don't know. Like that. Is that okay?
Yeah, sure.
Yeah, because I feel badly. So, Lisa, I think since we've moved to the Glen...
Talk closer to the mic, though.
Since we've moved to the Glen, you know, we've been under pressures from various parts. The first thing is that it's a very, very popular hospital, and we have attracted crowds of patients from, yes, the community, but also from far and wide. It's not unusual for patients to come from a distance and will say, I could have gone to my local hospital, but you know what? The MUHC is the best, and I really want to know what the doctors at the MUHC have to say. So there's that phenomenon going on. The other problem is that in the emergency room at the Glen on any given day, there are a lot of patients who are already admitted, and they are waiting for a bed up in the hospital. So the emergency room staff, and to answer your question about the number of staff, I don't have that today, so I'll get back to you on that, you know, the number of nurses and PABs and doctors. But those people are caring for a whole bunch of patients who are actually shouldn't be in the emergency room. They should be up in their bed on the floor. So they are busy. So if it weren't for all of those stretchers, we may be managing a little bit better, because then the emergency room staff could be actually taking care of the emergencies rather than having to care for the patients who are on stretchers waiting to go up. So in your question about what happens to them, well, the staff in the emergency room, the nurses and the PABs and the various allied professionals who are down in the emergency room, as well as the doctors who are working in the emergency room, and the consultants take care of those patients. So there is care being given. For the patients who are in the waiting room, the nurses do have a protocol to ensure that an eye is kept on the patients who are in the waiting room. Is it perfect every day? Not necessarily, because there are a lot of people that might be in the waiting room, but they do try to respect the protocol for how often the patients need to be seen. So we're working very hard on how to have patients go up faster to the floors, but on the floors we have our own set of problems, and a lot of that has to do with patients who are not necessarily in the right place. They have finished their stay at the MUHC and they are waiting to go to another facility. It could be a rehab facility, it could be a chronic care facility, it could be going home with support from the CLSC. So we work very closely with Antoinette, who's sitting here, who is in charge of the allied professionals and who's in touch with the ministry and the local organizations and our CIUSes to try and accelerate that process. But every patient who's occupying a bed like that on the floor and who's waiting is a bed that can't be used for an emergency patient. And so that is a huge problem, and it is a problem that we are trying to address every single day. And this is where, and I think Patricia mentioned it earlier in her presentation, the capacity of the network outside of the MUHC isn't necessarily there to be able to address these issues. So that's another issue. The other issue is that we probably don't have enough acute care beds. So we are pushing very hard, and I'm not sure if Dr. Kveller mentioned it earlier, but we are this week receiving a visit from the ministry to talk exactly about your concerns with folks from the ministry and see how they could help. And next week, we are going to Quebec City, actually, to meet with more people from the ministry, and you probably also mentioned that, where we would like to use the situation in the emergency room as the barometer of the difficulties that we're having with patient flow. Lots of patients coming in, but we're having trouble with them going out. So you had another question about the P4, P5s. So yes, we do have an entente. So when patients come into triage, it's not so much whether they're P4 or P5, but whether their clinical condition would be amenable to being seen in a clinic. So we have ententes with two clinics. One is the Queen Elizabeth, which is just up the street from the Glen, and also with Westmount Square. This is for the adult patients. And we do tell the patients that for their condition, they could actually be seen in the Clinique Réseau close to us. And we have an arrangement whereby those patients can get an appointment and can be seen fairly quickly. Some patients take up on the offer and some patients don't, and they say, I came to the MUHC and I really want to be seen by the doctors here. I'm willing to wait 8, 9, 10 hours. So we can't do too much about that. It is a patient's choice as to whether they stay or go. But just to answer your question, yes, we do have two ententes and patients are referred out elsewhere. I'm just trying to see if I'm... Yeah, so I think from at a high level, maybe I've tried to answer some of your questions. I will get back to you with the exact staffing, nights and evenings, because that was a concern that you expressed. Not sure if that helps or not, but
I think
we're
Dr.
worried
Barnes
about it.
Wanted to say something.
Sure, Bob, yes.
Dr. Barnes is the DPS for the children, yep. So. Yeah.
Thank you. Dr. Sidoritz listed many of the, quote, upstream and, quote, downstream issues that lead to very acute pressures in the emergency room. And at the Glen, the Children's Hospital often suffers from some of those pressures as well, particularly during the winter viral season, when many of our children who are thankfully surviving, that were never survived before, suffer from acute complications of viral illnesses. Over the last several years, we've developed a number of patient flow initiatives where years ago, many surgeries were canceled when the emergency room was so busy. And we have found some innovative ways to make sure that we are able to accommodate the emergency acute patients as well as continue on with our surgical schedules. And it has been tremendous, the improvements over the last several years. Nonetheless, we also have a bed number issue, particularly during the viral season, that we hope to address with the ministry as well. As for the P4, P5s, we also have ententes with a number of urgent care clinics, both GMF and pediatric, including a web-based application right there in the waiting room that would encourage families to find a slot. Even though it's sans rendezvous, we actually can afford a time slot in the sans rendezvous within the next 24 hours. And it has been a major challenge to encourage families to avail themselves of it. It won't stop us from trying.
Thank you, Dr. Barnes.
Thank you. Yeah, so there's a lot happening both on the adult and pediatric side to try and address this, but it's a they're tough questions, Lisa.
Thank you.
So there's a second question from Lisa Rosati, and she says, in April, there was a fire incident in the Research Institute at the Glen, which prompted an elevator issue and possible contamination of lab samples for patients that was addressed at the June Board of Directors public meeting. Has there been a follow-up to the Sentinel event, and what emergency measure upgrades have been implemented?
Okay, so I answered partly this question already during the first part of the meeting. Yes, there was an action plan that was presented to the comité de direction and au comité de vigilance concerning this event, if I'm not mistaken, but certainly comité de direction. And we are following up on this. About the specimens, I already answered the questions for the lab specimens. And it was a Sentinel event. I did answer that already in June. La prochaine question ou intervention, ce serait Mr. Chris Reed. From FSSS CSN, is Mr. Reed around? Bonjour, welcome. I had the name. Chris maybe Reed. It's Christine Reed. I don't know.
I'm Christine Leschuk. I'm VP for Health and Safety. I'm one of the executive.
Welcome.
Thank you.
Sorry, I thought it was a gentleman.
It was Chris Reed, but he had to leave, so we're
taking his place. Okay.
So we're here to present a petition from our members regarding the rotation that's been implemented on the PABs for the moment.
Okay.
We were told by the employer that it's only the CSN who had an issue with this and the employees didn't. So we're here to present our petition from, I think, over 95% of our members.
Okay.
So we'd like to hand in this petition too.
We'll be glad to take a look at it. And you can just come forward and bring, thank you very much. And I know this is being discussed already with the Human Resources Directorate, so we'll add that to the file. And I heard about this this matter. It's very operational, so I'll let you discuss it with the people from HR. I understand this has something to do with the collective agreement, so we have mechanisms by which we can settle disagreements. One of these is arbitration. So I understand that the discussions are ongoing. And thank you very much for the petition.
Yeah, it's a strong element also for work-family life balance, and for that's been a great issue with this rotation.
The rotating shift.
Yes, thank you.
Thank you very much. I have a question. J'avais une question, Madame Nicole Savoie, but I answered the question in the first part of the meeting about making the neuro more accessible. So I answered the question. Unless Madame Savoie wants to add, I don't know if she's here or. Okay.
Nicole Savoie for the Neuro User Committee. Oh, thank you very much for the work that is ongoing. The dumpster has been removed. We don't know if we have the entente yet for the people to be. Deposited at the entrance of the institute.
Okay.
Although I've heard recently, and I know that things are ongoing, that they will have to close the emergency entrance for some period. So we're still watching out to make sure that people will be able to find easy access. And parking is still a situation for people who are challenged with mobility situations. So, but thank you very much for the ongoing dossier, which is moving.
We're
still checking on.
Okay. Unfortunately, Monsieur Legris, well, fortunately for him, he's on vacation. Well, so I can't go into the details today. I don't know the answers to that. So, but keep us posted. Thank you very much, Madame Savoie. That would be it, Monsieur le Président.
Great. Well, thank you very much, members of the board. Thank you very much, members of the public. Thank you for the questions, and hopefully the answers, and those answers which are coming at the next meeting, we'll look forward to those. Thank you very much, everyone.
Good evening. Bonne soirée à tout le monde.